Zine. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de la consommation. Quand une partie de l'humanité manque de tout, l'autre partie ne sait que choisir. Et pour les moins démunis, la pandémie a révélé une tendance lourde, l'explosion du commerce en ligne. Cette économie de la demande, où le consommateur est roi, change durablement les conditions de travail de ceux qui produisent et surtout de ceux qui distribuent nos commandes. Livraison rapide de repas ou d'objets, quelles sont donc ces conséquences exactes pour le monde du travail? On va en parler. Bien sûr, on parlera d'Amazon, de ses promesses d'emploi et de cette nouvelle condition ouvrière avec Adrien Pinon qui a réalisé en 2019 le documentaire « Le monde selon Amazon » qui était donc diffusé avant la pandémie. On entendra le témoignage aussi d'un livreur à vélo qui travaille sous une fausse identité avec un statut plus que précaire. Un témoignage que vous avez recueilli à Paris, Penaïd Traoré. Bonjour Penaïd.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous accueillir dans le studio des 7 milliards de voisins. Vous nous parlerez aussi de cette révolution des livraisons dans les villes africaines. Progrès ou recul? Notre invité principal dans l'émission, c'est Denis Penel, spécialiste du marché du travail et des ressources humaines. Bonjour Denis Penel.
Bonjour.
Vous êtes en liaison avec nous de Bruxelles et vous publiez un livre qui pose une question que l'on se pose finalement rarement au moment de cliquer sur une application ou un site. Le paradis du consommateur est-il devenu l'enfer du travailleur? C'est publié aux éditions du Panthéon. Et c'est aussi à vous de nous répondre, les voisins et les voisines, à cette question, où que vous soyez dans le monde. Vous nous appelez sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Allez, je la repose, la question. Le paradis du consommateur est-il devenu l'enfer du travailleur?
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Et on rejoint Penaïd Traoré, le consommateur, le commerce. Commandé via une application vue d'une ville africaine. Ça vous a inspiré, Penaïd?
Oui, ça m'a inspiré, Emmanuel. Alors, on va faire un saut dans le temps, 20 ans ou même 10 ans en arrière, quand il n'y avait pas de service de livraison comme on en connaît aujourd'hui.
Je ne savais pas que vous étiez si vieille.
Oui, je pense que quand je réfléchis, je regarde un peu. J'ai quand même vécu un peu, comme on le dit.
Ah bon?
Alors, quand on avait envie d'un bon plat dans notre restaurant préféré, eh bien, il fallait s'y rendre, même s'il était situé à des dizaines de kilomètres à l'autre bout de la ville. Quand on achetait un meuble ou un appareil, soit on le transportait, soit même dans un taxi, voilà, dans le coffre d'un taxi, même quand il débordait, ou on payait le commerçant qui nous le transportait. En son temps, l'utilisation des téléphones portables n'était pas vulgarisée, alors on profitait parfois du seul voisin qui avait un téléphone fixe pour donner ou recevoir des instructions quand on attendait une quelconque livraison. Il ne fallait pas oublier les transporteurs qui sont longtemps restés, et ils le sont toujours, le moyen le plus sûr pour livrer un colis ou un courrier d'une ville à l'autre, Emmanuel.
Oui, on n'est jamais mieux servi que par le chauffeur d'un bus, finalement, que l'on connaît bien. Alors quand même, les choses ont changé aujourd'hui, Penaïd.
Les choses ont énormément changé. Moi, je me demande plutôt, et si ce qui est considéré comme l'enfer du travailleur était plutôt son paradis? Alors, on assiste à un foisonnement de services de livraison à Abidjan, à Dakar, à Ouagadougou. Des applications sont créées pour faciliter la tâche au consommateur qui ne bouge plus, tout vient à lui désormais. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dépenser son argent. On passe commande et on paye cash une fois qu'on reçoit sa livraison ou par les services de transfert d'argent via son numéro de téléphone. Ces transactions qui sont très utilisées dans les capitales, dans les villes africaines. On pourrait voir dans tout ça comme une sorte d'incitation à la consommation impulsive. Pourtant, il y a un côté positif, je pense. Ce sont des emplois qui sont créés. Ce sont des jeunes qui entreprennent pour embaucher d'autres jeunes. Donc, c'est une façon de remédier au chômage.
Ouais, la consommation impulsive, c'est quand même limité par le montant de son porte-monnaie électronique. Tout ça, c'est bien, mais ces services sont finalement réservé à quoi? La classe moyenne, une élite, des privilégiés, Penaïd?
On a tendance à le penser parce que les consommateurs qui peuvent recourir à un service de livraison font partie d'une certaine classe moyenne et ils habitent généralement dans des quartiers accessibles. Celles qui habitent à la périphérie des centres urbains peuvent se sentir exclues en raison de l'inaccessibilité de certains quartiers informels ou illégaux avec un pouvoir d'achat et un accès limité à Internet. Étant donné que l'adressage n'est pas très très développé partout dans les villes africaines. On fonctionne au téléphone portable et cela occasionne des pertes de temps énormes. Pourtant, n'hésitons pas que le temps, c'est de l'argent.
Oui, l'adressage, c'est encore un autre sujet, ça, sur les villes africaines. Merci, Penaou Traoré. Vous restez avec nous, Penaï. L'ubérisation de la société dans les villes africaines. Et vous, les voisins, qu'en pensez-vous? Vous pouvez bien sûr réagir sur WhatsApp 33 7 64 45 51. 41, le paradis du consommateur est-il devenu l'enfer des travailleurs? Denis Penel, c'est le titre de votre livre. Alors vous, avec le recul maintenant, bien qu'on en ait peu, mais la pandémie a réellement fait exploser le commerce en ligne. Déjà, comment vous réagissez à l'analyse de Penaï Traoré, vue des villes africaines?
Elle répond à ce que moi j'ai observé effectivement de mon côté, c'est cette évolution, ce changement de paradigme même que j'appelle, qui est le fait qu'auparavant c'était le consommateur qui allait vers le produit, aujourd'hui c'est l'inverse, c'est le produit effectivement ou le service qui vient au consommateur et celui-ci peut rester tranquillement dans son salon d'un clic, il peut avoir accès à un grand nombre de services et de produits individualisés qui lui seront livrés à domicile.
Plus largement, qu'est-ce que la pandémie, avec sa fermeture des commerces non essentiels, a révélé dans nos modes de consommation?
Mais je dirais que la pandémie a agi comme un accélérateur de particules, parce que ces tendances étaient déjà là. Ce changement de paradigme, pour moi, il a commencé au début des années 2000. On est passé auparavant, durant les 30 glorieuses, pour schématiser, dans une économie de rattrapage, une économie qui était tirée par les producteurs. Il a fallu reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu équiper les ménages en télévision, en frigo, en voiture, etc. Donc, on était dans une société de production de masse. On produisait les mêmes produits ou services en grande quantité. Et après, on essayait de les vendre. Encore une fois, le grand changement a eu lieu à partir des années 2000 où le modèle s'est inversé. Et face à cette économie de l'abondance, voire de la surabondance, aujourd'hui, vous avez plutôt trop de choix que pas assez de choix, en tout cas dans nos économies développées, eh bien, c'est le consommateur qui est devenu roi et qui veut un produit de plus en plus personnalisé, individualisé, qui va répondre à ses besoins, à ses attentes spécifiques, et ne veut plus le même produit que son voisin. Mmh. Donc, effectivement, vraiment un changement de comportement et de modèle économique.
Oui, mais dans quelle mesure ces constats sur notre appétit de consommation que vous décrivez comme totalement insatiable du fait des multiples propositions, dans quelle mesure quand même ça concerne l'ensemble de la société, pas seulement les classes moyennes et très aisées?
C'est intéressant aussi dans le reportage qu'on a entendu, c'est que moi je pense qu'il y a en fait quelque part une démocratisation du service à la personne. Aujourd'hui, on ne pourrait plus se permettre d'embaucher un chauffeur à temps complet. On ne pourrait plus se permettre d'embaucher pour beaucoup de gens un cuisinier à temps complet ou de faire venir ou d'avoir un coiffeur attitré. Cette économie à la demande, en fait, permet effectivement de disposer d'un chauffeur quand vous utilisez l'application Uber, juste pour le temps où vous allez avoir besoin de ce chauffeur, donc pas avant, pas après, et vous allez juste payer le temps que vous allez utiliser ce chauffeur. Pareil pour le cuisinier quand vous faites livrer repas, Deliveroo, pareil pour le coiffeur qui vient chez vous. Donc en fait, il y a une sorte de retour à une certaine domesticité, on pourrait dire du 19e siècle, mais sous un modèle très différent, où plutôt que d'employer la personne directement, ce qui est aujourd'hui difficilement possible au vu du coût du travail, eh bien on utilise les services de cette personne, mais uniquement pour le temps de la prestation qui est nécessaire.
Finalement, comme aujourd'hui dans les pays du Sud, d'une certaine manière. Ce service permanent que l'on peut avoir si facilement dans les pays du Sud.
Oui, c'est vrai, parce que dans les pays du Sud, le coût du travail est moins élevé. Donc effectivement, c'est un système qui a perduré plus longtemps que dans nos économies développées. Mais encore une fois, on revient un peu à ce modèle, mais sous une organisation très différente, où on peut résumer ça sur le fait que l'usage prévaut désormais sur la propriété. Avant, effectivement, vous employiez un chauffeur, enfin, je dis avant au 19e siècle, un chauffeur à temps complet. Vous le rémunériez, c'était votre employé. Là, vous allez uniquement payer la prestation de service que ce chauffeur va vous fournir pour le temps d'utilisation de ses services.
Alors, le client est roi, mais on le fait aussi beaucoup travailler à la place des employés. Le client remplace les caissières de supermarché, par exemple.
Alors ça, c'est une autre tendance, effectivement. C'est ce qu'on appelle le travail du consommateur, qui est un travail qui n'est pas souvent perçu, qui est très souvent non rémunéré directement. Si je vous demande, par exemple, quelle est l'entreprise qui fait travailler aujourd'hui le plus de monde sur cette planète, la réponse, c'est Facebook, puisque en moyenne, Facebook a 1,5 milliard d'utilisateurs quotidien. Ce sont des gens donc, comme vous et moi qui alimentons notre compte Facebook, qui postons des photos, qui faisons des likes sur des stories qu'on aime bien. Voilà, ça ne ressemble pas à du travail, mais c'est du travail parce
que
derrière...
On travaille tous gratuitement alors sur Facebook. Ouais.
Absolument, mais absolument. Parce qu'au final, Facebook utilise vos données pour les revendre à des opérateurs commerciaux qui ensuite vont vous proposer des services ou des produits adaptés à votre profil. Donc effectivement, aujourd'hui, Facebook est le plus gros employeur de la planète, sauf que ces travailleurs ne sont pas des employés et travaillent gratuitement.
Et de manière plus visible peut-être que Facebook, le client remplace bien les caissières de supermarché et participe à la suppression d'emplois.
Oui, d'un certain côté, oui. Mais alors ça, c'est le grand débat sur l'impact des nouvelles technologies sur le travail et sur les emplois. Globalement, les innovations technologiques ont toujours créé plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit. Mais c'est vrai que certains emplois disparaissent. Hein, mais il faut savoir qu'on n'a jamais été aussi loin dans l'automatisation, dans le développement des outils qui permettent d'automatiser le travail. Mais il n'y a jamais eu autant de monde au travail sur cette planète qu'à l'heure où je vous parle. Donc on voit qu'il y a un effet qui est double, c'est qu'effectivement, hein, et c'est ce qu'on appelle la création destructrice d'emplois, l'innovation technologique effectivement détruit certains emplois, mais en crée d'autres. Et si vous regardez sur 2000 ans d'histoire, le progrès technologique a toujours créé plus d'emplois qu'il n'en a détruit.
Alors, vous dites beaucoup dans votre livre que grâce à la pandémie, tout le monde a pris conscience que finalement, ne pas pouvoir aller acheter dans des magasins, même si bien sûr le commerce en ligne a pris le relais, mais c'était pas si important que cela, en tout cas pour ce qui est des commerces non essentiels, et que ce qui était le plus grave dans cette pandémie, c'était bien sûr la gravité de la situation sanitaire, mais d'être privé de ses proches, de sa famille, de vie sociale, de contacts au café par exemple, et que c'était bien plus important que de consommer, alors qu'auparavant on ne se rendait pas vraiment compte de cela. Est-ce que c'est pas un peu illusoire tout de même quand on voit qu'il n'y a pas si longtemps, on avait une contestation des Gilets jaunes qui préfigurait déjà un droit à consommer, à une vie plus confortable, sans galérer à la fin du mois ?
C'est vrai d'un certain côté, mais regardez aujourd'hui l'appétence des Français pour aller se retrouver sur des terrasses. Donc vous voyez quand même qu'il y a une tendance, une prise de conscience à travers cette crise sanitaire de l'importance de certaines choses non matérielles, que moi je résume par cette expression, hein, moins de biens, plus de liens. Je pense que quand même, beaucoup de gens ont pris conscience que est-ce bien nécessaire de s'acheter le dernier vêtement à la mode ? Est-ce bien nécessaire de changer son smartphone alors qu'il n'a que 2 ans d'utilisation, et qu'en même temps, on a été privé de voir des amis, de pouvoir sortir librement, de s'asseoir à une terrasse d'un café, les grands-parents de voir leurs petits-enfants, etc. Donc je pense quand même qu'il y a une prise de conscience. On a remis un peu, comme on dit, l'église au centre du village en disant, voilà, il y a des choses qui peut-être sont superficielles par rapport à d'autres choses que l'on tenait pour acquises, mais dont on s'est aperçu que finalement, on pouvait être privé et qui sont quand même plus fondamentales pour notre bonheur dans la vie.
Mais vous dites ça comme si vraiment il y avait eu un recul extrêmement marqué de la consommation de biens non essentiels. Est-ce vraiment le cas ? Parce que ce que vous citez là, ça a pu se reporter sur le commerce en ligne.
Alors, clairement, si vous regardez les chiffres sur les derniers mois, il y a eu un boom phénoménal du commerce en ligne. Donc ça, c'est très clair. Ceci étant, le fait quand même que nous n'avons pas pu aller dans certains magasins ou qu'aujourd'hui encore, quand vous allez dans un hypermarché, bah, certains rayons sont fermés, vous n'avez pas le droit d'y accéder, je pense quand même à recentrer la consommation sur des choses plus essentielles. Et encore une fois, on va le voir maintenant avec la réouverture des terrasses et après des cafés, des restaurants. Cette soif, quelque part, hein, de se retrouver, de retrouver des contacts, de resocialiser dans notre vie plutôt que d'aller dans les magasins.
Ouais. Alors, comment le paradis du consommateur est devenu l'enfer des travailleurs ? Comment ces nouveaux besoins changent réellement les conditions de travail ? C'est vrai que ce n'est pas forcément les questions qu'on se pose hein, au moment de cliquer pour faire une commande, par exemple. On va en parler dans quelques instants avec, bien sûr, vous, Denis Penel, et avec le témoignage d'un livreur de restauration rapide que vous avez rencontré, Penaï Traoré. Et Adrien Pinon nous rejoindra également dans l'émission. Il est le réalisateur du documentaire télévisé Le Monde selon Amazon. Ce sera juste après Stromae qui ne s'économise pas pour nous mettre en garde. Très efficace.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé. et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats.
Hey.
Stromae chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Le paradis du consommateur est-il devenu l'enfer des travailleurs? C'est la question qu'on pose aussi à nos auditeurs, aux voisins et aux voisines, où vous soyez d'ailleurs dans le monde, au 33 7 64 45 51 41. C'est pour nous contacter. Notre compte WhatsApp, on en discute avec vous. Denis Penel, c'est le titre aussi de votre ouvrage, de votre essai. Vous êtes spécialiste du marché du travail et enseignant à Sciences Po. On en discute aussi avec vous, Penaï Traoré. Vous nous avez parlé de ce commerce en ligne qui explose à petite échelle dans les villes africaines, notamment à la faveur du confinement et oui. Des fermetures des restaurants, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui dans les villes. Mais en tout cas, les livraisons des maquis a bien fonctionné pour se faire livrer des repas. Et puis Adrien Pinon, le réalisateur du documentaire télévisé Le Monde selon Amazon, va nous rejoindre dans quelques minutes. On accueille une auditrice qui nous appelle de région parisienne, de Palaiseau, je crois. Bonjour Alex.
Bonjour Emmanuel et bonjour à vos invités.
Soyez la bienvenue. Alors vous souhaitez répondre à cette question qu'on a posée?
Oui. Alors moi je suis étudiante et je travaille dans une petite start-up de livraison de courses à domicile et je fais de la préparation de commandes. Mmh. Et c'est un travail très dur, très pénible. Les managers sont tout le temps derrière nous pour que nous soyons le plus rapide possible. Et il faut qu'il y ait quand même de la qualité dans les commandes. Et à côté de ça, les conditions de travail ne sont pas du tout réunies. Notre quotidien se ponctue entre les douleurs lombaires, le stress. Et aujourd'hui, moi, je suis totalement d'accord avec votre invité qui dit que le paradis du consommateur est totalement l'enfer des travailleurs. Mmh. Il arrive des fois où je travaille dans des endroits frigorifiés et nous n'avons pas les équipements qu'il faut. Il arrive des fois où nous grimpons à main nue sur des étagères pour récupérer les produits. Et à côté de ça, on est presque obligé parce que nous sommes tous des étudiants. Et avec la situation actuelle, c'est le seul travail que l'on a trouvé. Et voilà, on y va, on y fonce. Et d'un autre côté, il y a le consommateur qui est chez lui, tranquillement assis, qui certes nous donne du travail, mais les conditions de travail sont très, très difficiles.
Ouais, plus difficile que si vous étiez vendeuse dans une épicerie. Là, ce que j'ai compris, c'est que vous préparez des livraisons de produits alimentaires, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et il y a des fois où des commandes arrivent à 50 produits, donc il y a le poids. Il y a tout ce qui va avec et ce n'est vraiment pas évident.
Oui, physiquement, c'est plus compliqué que si le client arrivait à votre caisse avec son caddie chargé de courses. Vous n'auriez pas à porter ses préparations de commandes, par exemple. C'est ce que je comprends dans votre témoignage, Alex, c'est ça?
Tout à fait. Et à côté de ça, les managers sont très stressants. Ils sont tout le temps derrière vous à vous dire « dépêchez-vous, dépêchez-vous ». Et donc, on rentre à la maison, on est épuisé, on a le corps qui est totalement douloureux, mais il y a aussi le stress qui s'accompagne avec.
Mais les managers, ils sont bien conscients de ces conditions de travail.
Bien sûr, bien sûr. Et moi je pense qu'ils, permettez-moi l'expression, ils s'en foutent un peu parce qu'ils savent que si vous laissez tomber, forcément, il y aura d'autres personnes qui sont qui ont des difficultés et qui postulera encore. Parce que presque tous les jours, il y en a qui arrêtent, mais il y a d'autres qui viennent.
Parce que la politique marketing de cet établissement pour lequel vous travaillez, c'est une chaîne de magasins, non? Surtout, ne donnez pas le nom, mais...
Alors c'est pas totalement une chaîne parce que c'est une très petite entreprise qui n'a que deux entrepôts en région parisienne.
D'accord.
Donc c'est très petit, il y a pas.
Mais la politique marketing, la promesse pour le client, c'est quoi? C'est vos courses livrées en une heure? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on promet aux clients pour que vous soyez stressé à ce point-là?
Les courses qui sont livrées en une heure. Donc, lorsque la commande est passée, il faut être au maximum au taquet. Et en une heure, donc il y a nous qui préparons et ensuite celui qui va livrer. Donc, il faut que tout se passe en un laps de temps. Et l'idéal, c'est même que le client reçoive un peu plus avant.
Un peu, oui. Si possible, avant la deadline promise.
Voilà.
Merci Alex de nous avoir appelés. Bien sûr, vous continuez de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Merci beaucoup pour ce témoignage en direct. Denis Penel, effectivement, on voit même maintenant des paniers de légumes en circuit court. Donc, a priori, tout ça est très vertueux. Livrés en une heure chez vous. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps dans la rue. Ça peut sembler un peu paradoxal comme culture.
C'est effectivement le revers de la médaille de cette économie à l'allemande où voilà, on voit très bien la pression du consommateur qui est mise sur les managers et les managers mettent la pression sur les travailleurs pour effectivement répondre rapidement. C'est quasiment du ici et maintenant à la demande du consommateur. C'est ce que j'appelle moi la fin du bonheur différé du consommateur. Le consommateur ne veut plus attendre, il veut commander et il veut pouvoir acheter tout de suite et être servi
le plus possible. Promesse parfois de greenwashing, c'est-à-dire que c'est bon pour l'environnement, les légumes, le circuit court, mais derrière, effectivement, il y a des gens, des jeunes qui trinquent, comme le disait Alex. On donne la parole à un auditeur qui est étudiant à Niamey, au Niger. Ismaël, bonjour Ismaël.
Oui, bonjour.
Et alors, vous, comment vous réagissez?
Bonjour.
Oui, soyez le bienvenu, Ismaël. On a posé cette question, donc vous souhaitez y répondre. Le paradis du consommateur est-il devenu l'enfer des travailleurs chez vous?
Oui, effectivement. Bon, moi, j'aimerais parler sur la livraison parce que j'ai écouté tout à l'heure, Penaï était en train de parler là-dessus. Ici, au Niger, j'ai constaté que bon, le service de livraison est tellement rare. Vraiment, donc du coup, c'est un service que j'ai constaté. C'est un projet vraiment très efficace et qui a de l'avenir. Je crois que bon, ça fait pas très longtemps, Penaï avait eu vraiment dans son émission qu'elle faisait samedi où les jeunes sont là à la FADA. Donc c'est un projet vraiment que si vraiment il y a des bailleurs de fonds qui sont là vraiment et qui arrivent à avoir ce genre de projet vraiment
Ismaël, vous vous dites c'est bon pour l'emploi des jeunes finalement?
Oui, effectivement, parce qu'on est jeune, La jeunesse nigérienne, elle souffre. Vraiment, oui. Je crois que Penaï en sait quelque chose.
Vous avez entendu le témoignage juste avant vous d'Alex, étudiante et préparatrice de commandes de livraison de nourriture en région parisienne. Est-ce que vous avez entendu son témoignage?
Oui, j'ai écouté son témoignage où elle expliquait vraiment que c'est tellement... Bon, moi, je parle sur c'est le cas de l'Afrique, quoi. Ouais. Surtout dans mon pays, vraiment le constat que j'ai fait.
Donc le paradis des travailleurs pour le continent africain, à vous entendre, Ismaël. Merci beaucoup.
Plutôt positif pour lui.
Voilà. Merci en tout cas, Ismaël. Très bonne journée à vous, à Niamey. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51. 41, le paradis du consommateur est-il devenu l'enfer des travailleurs? Penaï Traoré, dans une grande ville comme Paris, le soir, dans les rues, qui reste-t-il? Les livreurs.
Les livreurs à vélo.
À vélo.
Oui. Et Emmanuel, ils sont pour la plupart des travailleurs sans papier. Ils travaillent, ils sont sous-protégés et sous-payés encore dans ces conditions précaires, puisqu'ils sont majoritairement sans papier. Ils s'appuient forcément sur d'autres travailleurs qui ont des papiers pour pouvoir travailler et gagner leur pain quotidien. Et j'ai rencontré l'un de ces livreurs qui travaille sous une fausse identité. Il est ivoiro-malien. Il s'exprime en bambara. Écoutons son témoignage.
Moi, je travaille avec le compte d'une autre personne. Si tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas rester là assis et seulement prier. Tu es obligé de trouver une solution. Donc on essaie de s'entraider comme on peut. Une personne crée son compte et une autre travaille avec. Si tu travailles avec le compte de quelqu'un que tu as connu grâce à un intermédiaire, la personne peut te demander de lui payer, par exemple, 100 euros par semaine. Quel que soit ce que tu gagnes, même si ce n'est pas assez, tu es contraint de lui payer ces 100 euros. Tu es obligé de compléter de ta poche, sinon tu laisses tomber le compte. Ce n'est vraiment pas un travail facile. Parfois, l'application demande une photo. Ça arrive quand les clients commencent à laisser des commentaires en disant qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit le propriétaire du compte qui fait les livraisons. Du coup, l'application demande une authentification. Dans ce cas, tu es obligé de retrouver le propriétaire du compte. Et le temps que tu fasses tout ça, le doute se confirme que le compte ne t'appartient pas et il est immédiatement bloqué. Quand ça arrive, tu ne peux plus faire la livraison. Si tu veux continuer, tu dois te trouver un nouveau compte ailleurs.
Denis Penel, votre réaction sur ce type d'emploi, pas de protection sociale, hein, dans le cas de ce livreur à vélo, pas d'assurance en cas d'accident. Le travail au noir, d'ailleurs, n'est plus seulement un complément de salaire le week-end. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle économie de survie qui utilise le travail au noir.
Oui, absolument. Mais là, on est quand même dans un cas extrême où, effectivement, la personne qui travaille, et je comprends sa nécessité hein, de travailler, mais le fait dans un cadre qui est complètement en dehors de la loi. Heureusement, il y a quand même beaucoup de livreurs, que ce soit chez Deliveroo ou des chauffeurs Uber, qui sont déclarés et qui travaillent en conformité avec la réglementation. Donc, il ne faut pas non plus généraliser cette situation.
Mais ils sont majoritaires quand même. Hein. Il y en a beaucoup, les sans-papiers, qui travaillent dans
beaucoup...
ces conditions.
Mais je ne pense pas qu'il soit majoritaire quand même. Et on le voit, la plateforme finalement joue son jeu. C'est qu'elle, quand elle se rend compte que ce n'est pas le titulaire du compte qui y travaille, eh bien elle ferme le compte. Donc on voit quand même qu'il y a un système d'auto-réglementation de la part des plateformes.
Oui, parce qu'il y a eu le scandale de Frichti et que ça a fait du tort à l'image de l'entreprise. Finalement, vous avez bien décrit ce système de consommation à la demande et de travail à la tâche. Donc, ce sont deux phénomènes totalement symétriques dans leur façon d'être découpés, un peu en rondelles, finalement. Consommation à la demande, travail à la tâche.
Ben oui, effectivement, c'est le revers là aussi de la médaille. Et pour paraphraser la chanson qu'on a entendue un peu plus tôt de Stromae, quand il dit que l'amour est un enfant de la consommation, je dirais aussi que le travail aujourd'hui est un enfant de la consommation. Parce que si le consommateur veut être servi le plus rapidement possible à travers des biens et des services qui sont personnalisés et qui sont livrés à domicile, ben il faut bien que quelque part la chaîne de production s'adapte. Et encore une fois, c'est un vrai changement de modèle où avant on produisait et on vendait, aujourd'hui c'est l'inverse, hein. Le producteur va d'abord vendre son produit et après il va le produire. Hein. Quand vous commandez un repas chez Deliveroo, il n'est pas encore fabriqué au moment où vous le commandez, il va être fabriqué à la demande. Cela implique pour les entreprises une plus grande flexibilité, une plus grande agilité pour pouvoir répondre à cette demande sans avoir aucune visibilité. C'est-à-dire qu'un restaurant qui travaille avec Deliveroo ou une autre chaîne, une autre plateforme de livraison, je dirais, quand il commence son service à 19h, il n'a aucune idée du nombre de repas qu'il va devoir servir. Donc, il va falloir qu'il s'adapte et qu'il réagisse très rapidement.
Ça fait penser à ce slogan marketing d'un célèbre, une célèbre entreprise de VTC pour les chauffeurs. Venez travailler quand vous voulez et adaptez votre emploi du temps en fonction de ce qui vous arrange en termes d'horaires de travail, ou plutôt l'inverse. Hein, vos horaires de travail, vous pouvez les adapter en fonction de ce qui vous arrange. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça, non ?
Mais il y a une sorte de consumérisation du travail. Finalement, le travail devient aussi un bien de consommation et de plus en plus, chacun d'entre nous, on veut effectivement pouvoir travailler quand on veut, où on veut, avec qui on veut. L'économie à la demande permet de faire cela, mais encore une fois, soyons conscients des inconvénients que cela pose sur les conditions de travail et sur le rythme de travail qui, effectivement, pour certains individus, n'est pas du tout facile à gérer.
Oui, notamment quand les courses de nuit sont celles qui rapportent le plus. Difficile de profiter de sa famille dans la journée s'il faut dormir à ce moment-là. En quoi ce système-là, on a parlé des livreurs et de ce travail à la demande en fonction du consommateur, en quoi ça s'apparente à un même phénomène que les salariés des géants comme Amazon, où là, il s'agit bien sûr de travail d'emploi déclaré, hein, notamment.
Effectivement, je pense que conditions légales de l'emploi chez Amazon respectent effectivement la réglementation du travail, mais on est dans un même phénomène qui, encore une fois, que le consommateur, quand il commande un livre sur Amazon ou un autre produit, puisque Amazon s'est largement diversifié, s'attend à recevoir ce produit le plus vite possible et encore une fois à domicile. Donc il faut aller très vite dans la préparation de la commande, il faut aller très vite dans la gestion logistique de l'envoi du livre ou du produit commandé et qu'il soit livré à domicile. Donc on est dans le même phénomène, encore une fois, d'un individu qui veut être servi à domicile et recevoir son achat le plus vite possible.
Qu'en est-il de ce qu'on appelle le management par algorithme ?
Alors, effectivement, on dit que certains individus, notamment ceux qui travaillent à travers des plateformes, ont pour patron un algorithme. C'est-à-dire que c'est l'algorithme, effectivement, qui va décider à qui on attribue la course en fonction, évidemment, de votre géolocalisation. Hein. Souvent, le livreur qui est choisi est celui qui est le plus proche du lieu de la commande ou du lieu de la livraison. Et donc, effectivement, ce n'est plus une intelligence humaine qui attribue le travail, c'est un algorithme selon des critères d'efficacité, de proximité qui va décider quel livreur va décrocher la commande.
Ça veut dire que finalement, quand ce livreur cycliste disait à Penaï lors du reportage qu'on supprimait son compte si on se rendait compte qu'il travaillait sous une fausse identité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation avec un employeur, c'est ça ?
Non, effectivement. Aujourd'hui, sur la plupart des plateformes, le travailleur n'est pas un salarié de la plateforme, c'est un auto-entrepreneur, donc c'est un travailleur indépendant qui n'est payé que le temps de sa course. Il n'est même pas payé le temps où il attend que le repas soit préparé. Donc c'est effectivement une toute autre relation de travail. Et c'est la grande discussion juridique du moment. C'est est-ce que ces travailleurs doivent être considérés comme des salariés ? Parce que finalement, ils n'ont pas une si grande autonomie dans l'organisation de leur travail. On leur dit, voilà, on leur choisit la course, on fixe leur rémunération et tout ça doit être fait dans un temps record, si je puis dire. Donc on peut se poser la question, est-ce que ce travailleur est vraiment indépendant ? Est-ce qu'il est libre d'organiser son travail comme il le veut ? Si c'est le cas, très bien, c'est un travailleur indépendant. Si ce n'est pas le cas, c'est du faux travail indépendant et effectivement, la relation de travail devrait être requalifiée en salariat.
Est-ce que cette relation entre algorithme et salarié est payée à la tâche ? Est-ce qu'un jour on arrivera à inverser peut-être la tendance ? Voilà, se dire que les algorithmes ont trop occupé l'espace et aujourd'hui on retourne à la façon au management traditionnel qu'on connaissait.
Alors moi j'y crois parce que je vois la limite à ces technologies, effectivement, parce que ce que l'on gagne d'un côté en efficacité, on le perd d'un autre côté en termes de relations humaines et en termes de bien-être au travail. Donc je pense qu'il va y avoir une réadaptation. On voit que certains pays ont déjà adopté des réglementations pour faire en sorte que les travailleurs de plateforme soient automatiquement requalifiés en salariés. C'est le cas notamment de l'Espagne qui a adopté une loi il y a 3 ou 4 semaines qui requalifie systématiquement tous les les travailleurs des plateformes en travailleurs salariés. Donc voilà, je pense que c'est aussi un phénomène qui est assez récent finalement, hein, ce travail des plateformes, et qui va petit à petit se réglementer et se structurer. Au niveau européen, la Commission européenne aussi réfléchit à un projet de réglementation sur le travail en ligne. Donc voilà, les choses vont aussi se mettre en place petit à petit.
Mais même quand il y a des réglementations, est-ce que ça ne sera pas toujours avantageux pour les grands groupes ?
Non, je suis pas sûr, parce que l'exemple de l'auditrice qui a appelé tout à l'heure, qui dit qu'elle travaille dans une petite, oui, une petite structure, justement, je pense que aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de créer sa propre petite entreprise grâce aux nouvelles technologies, grâce à la digitalisation. Donc, je pense que c'est aussi une chance d'accéder au marché du travail qui n'était pas possible auparavant. Auparavant, effectivement, vous deviez être embauché dans un grand groupe ou une grande entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez créer très facilement vous-même votre propre entreprise.
Mais en tout cas, comme le disait Alex, cette auditrice, elle travaille finalement avec des codes de management assez proches de ce qu'on pourrait trouver chez Amazon, toute proportion gardée. Adrien Pinon, vous êtes le réalisateur du documentaire télévisé Le Monde selon Amazon, avec Thomas Lafarge, diffusé en 2019 sur la chaîne France 5, et vous avez enquêté pendant des mois avant la pandémie, hein, sur le système Amazon. C'est le secteur qui a ensuite le plus profité de la pandémie. On écoute un extrait.
Je dirais que ce qui est difficile n'est pas d'effectuer la tâche en elle-même, comme d'entreposer un article, d'aller le chercher ou de l'emballer. Ce qui est difficile, c'est la répétition de cette tâche. Ce qui est difficile, c'est de la répéter 500 fois par jour, 10 000 fois par semaine, ou même peut-être 500 000 fois par an, tout en restant en bonne santé physique et mentale, de manière à la faire toujours avec la même précision et la même qualité. Si la tâche est effectivement réalisée 500 000 fois par an, il est difficile de ne pas développer un syndrome de bore-out. Les symptômes sont exactement les mêmes que ceux d'un burn-out, mais ils découlent d'une sollicitation intellectuelle insuffisante. Voilà la plus grande difficulté pour un salarié.
Adrien Pinon, vous avez filmé en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu ce qu'on vient d'entendre ?
Alors effectivement, c'est en Allemagne, parce qu'il y a à la fois un gros bassin de consommation, un pays qui est assez riche et qui consomme bien, et puis pas de concurrent du tout. Alors qu'en France, on a souvent l'impression qu'Amazon n'a pas de concurrent, mais en France, on a des entreprises qui sont assez fortes, je pense à Vente Privée ou à Cdiscount, par exemple. En Allemagne, Amazon est un peu seul. Et là, c'est parce que la personne que vous venez d'entendre est un employé d'un entrepôt d'Amazon qui a effectué plusieurs tâches, parce qu'il y a une rotation qui est assez importante dans les entrepôts. Et le dernier emploi qu'il a effectué, c'est ce qu'on appelle le travail de packing. Donc le packing, ça consiste à emballer les marchandises qui sont achetées par les clients. Et donc, c'est un travail qui s'effectue, c'est une sorte de travail à la chaîne. Les marchandises arrivent sur un petit tapis roulant. Et puis, la personne qui est chargée du packing met les produits dans un carton, ferme ce carton, met une étiquette, et puis place ça dans un bac pour l'expédition. Et ça, c'était une tâche que ces personnes-là, ces employés qui font ça, répètent des milliers et des milliers de fois par jour.
Le secteur de la logistique arrive en tête, hein, d'ailleurs, concernant les maladies professionnelles, pas tant en termes d'accidents comme dans le secteur du bâtiment, hein, mais effectivement dû à la répétitivité des gestes. Et on l'a entendu aussi dans le témoignage de notre auditrice Alex tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre. Et pourtant, elle ne travaille pas dans un grand entrepôt comme Amazon. Qu'est-ce que vous avez voulu vous révéler finalement au paradis du consommateur sur les réelles conditions de travail? Qu'est-ce que vous avez voulu dire au consommateur?
Eh bien, ce qu'on a voulu dire aux consommateurs, c'est que justement, ils n'étaient pas qu'un consommateur. Parce que, évidemment, si on regarde le service proposé à ses clients par Amazon, le service est exceptionnel. Ça, je crois que c'est indéniable. C'est-à-dire que vous pouvez acheter à peu près tout ce que vous voulez et le recevoir sans bouger de chez vous le lendemain dans votre boîte aux lettres.
Et Amazon a particulièrement bien fait le job pendant la pandémie, malgré les difficultés d'approvisionnement d'ailleurs.
Absolument. Ça a été très bénéfique pour Amazon, cette pandémie, parce que ça lui a donné l'occasion, ça a donné l'occasion à l'entreprise de révéler son utilité. Tous les gens qui étaient confinés chez eux, tous ceux qui étaient vulnérables, qui avaient, pour différentes raisons, qui ne voulaient pas sortir de chez eux, ont pu quand même continuer à se procurer les produits dont ils avaient besoin. Donc ça a été une période qui a été une période faste pour l'entreprise. Ça s'est traduit dans les chiffres, hein, avec une augmentation du chiffre d'affaires significative. Mais même en dehors de période de pandémie, le service proposé par Amazon est un service qui est d'une très grande qualité. Le problème, c'est que donc si on se place, si on considère que nous ne sommes que des consommateurs, il n'y a rien à dire sur Amazon. Amazon, pour le consommateur, c'est génial. La question, et je crois que c'est la question centrale à laquelle nous renvoie Amazon, c'est est-ce que nous ne sommes que des consommateurs ? Parce que la réalité, et vous en avez parlé au cours de l'émission, la réalité c'est que derrière ce service exceptionnel pour les consommateurs, il y a une pression considérable qui est mise sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Il y a une pression considérable qui est mise sur les fournisseurs de l'entreprise, il y a une pression considérable qui est mise sur les livreurs, sur les entreprises qui sont chargées ou les personnes qui sont chargées de livrer les colis, et puis il y a une pression considérable qui est mise sur les salariés. Et donc, Si on se dit que nous ne sommes que des consommateurs, bon, dans ces cas-là, très bien. Mais je crois que notre place dans le monde, elle est un peu autre que celle-là et qu'il faut réfléchir non seulement en tant que consommateur, bien sûr, puisque c'est ce que nous sommes, mais aussi en tant que citoyen et aussi en tant que membre d'une société et de se dire, est-ce que finalement, pour notre confort, parce que c'est vrai que c'est extrêmement confortable, est-ce qu'il est normal qu'on impose de telles conditions à des gens et à des entreprises. Ouais.
Mais Amazon, c'est quand même beaucoup d'emplois, plus d'un million d'emplois dans le monde, 75 000 emplois sont annoncés aux États-Unis et au Canada, 10 000 emplois au Royaume-Uni en 2021 également annoncés, dans ce pays, au Royaume-Uni, on sera à 55 000 personnes employées d'ici la fin de l'année, ça fait pas mal. Alors, quelle est la réalité d'ailleurs de ces créations d'emplois pour l'économie d'un pays ?
Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces créations d'emplois, ces chiffres assez mirobolants, qui sont des chiffres qui sont annoncés par l'entreprise, c'est un peu l'arme fatale d'Amazon. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que Amazon peut s'implanter partout et que les gouvernements, les pouvoirs publics, les collectivités locales déroulent le tapis rouge à l'entreprise. Parce que quand Amazon arrive et dit « je vais installer un entrepôt sur votre commune et je vais employer 2000 personnes », quelle maire peut résister à ça ? Dans une époque où le chômage est quand même le combat national numéro un, évidemment, c'est irrésistible. Après, derrière, il y a une réalité. D'abord, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce que chez Amazon, il y a des gens qui sont employés directement, mais il y a aussi beaucoup d'intérimaires. Donc, ce ne sont pas forcément des emplois pérennes. Il y a des gens qui travaillent à temps plein, il y a des gens qui travaillent à temps partiel. Donc, il faudrait réussir à voir un petit peu en équivalent temps plein.
Donc, c'est pas spécifique à Amazon, hein. Le secteur de la logistique, c'est le secteur qui emploie le plus d'intérimaires, c'est pas spécifique à Amazon.
Absolument, c'est pas spécifique à Amazon. Ce qui est spécifique à Amazon, c'est cette manière d'annoncer comme ça des chiffres qui coupent le souffle à tout le monde et de s'en servir pour réussir à gagner du terrain, des parts de marché et à s'implanter partout.
Alors on le voit, Amazon est de plus en plus contesté, y compris de l'intérieur. On l'a vu récemment aux États-Unis. Il y a eu le salaire minimum à $15 de l'heure partout, mais Amazon est totalement allergique aux syndicats, au syndicalisme, ce qui n'est pas le cas en Allemagne où les syndicats sont culturellement d'ailleurs puissants puisqu'il y a davantage de coopération entre patrons et syndicats. Est-ce que ça contrarie pour autant l'expansion du modèle à l'échelle mondiale ?
Alors, ça, c'est la grande question, parce que effectivement, vous avez diffusé un extrait tout à l'heure qui se passait en Allemagne. Nous, c'est un choix avec Thomas Lafarge, quand on a réalisé ce film, d'aller en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement, comme vous venez de le dire, une tradition syndicale importante avec des syndicats très forts, très organisés, protégés par une réglementation assez favorable. Et ils ont une capacité de mobilisation assez forte. Donc, il y a des débrayages assez fréquents dans les entrepôts allemands. Ça permet, il faut le dire, ça permet des progrès en termes salarial et des progrès en termes de conditions de travail. Cependant, ces progrès, comparés aux capacités de mobilisation importantes des syndicats allemands, restent assez faibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une géopolitique de l'entreprise. Et si vous regardez la carte des entrepôts Amazon, vous vous rendrez compte qu'il y a, pas très loin de l'Allemagne, en Pologne, des entrepôts qui se sont installés juste de l'autre côté de la frontière. Ces entrepôts, ils ne sont pas faits pour livrer le marché polonais, parce que le marché polonais est assez faible pour Amazon. Ouais. Ces entrepôts, ils sont faits pour livrer le marché allemand. Ce qui fait que quand les syndicats allemands bloquent des entrepôts, eh bien, les capacités de livraison sont détournées vers les entrepôts polonais, où là, le droit social est beaucoup moins pointu que le droit social allemand. Et donc, l'entreprise peut continuer à livrer le marché allemand depuis la Pologne.
Voilà, les limites donc de du syndicalisme chez Amazon et la porte ouverte vers les délocalisations. Alors, quelles sont les options pour Amazon pour lutter malgré tout contre cette mauvaise image minoritaire depuis la pandémie, mais tout de même, ça va être quoi l'avenir, les solutions pour Amazon ?
Là, c'est compliqué. Alors, évidemment, Amazon communique beaucoup là-dessus. Donc, les solutions aux États-Unis, ils ont fait un coup magistral d'un point de vue stratégique qui a été le salaire à $15 partout. Pourquoi c'est un coup magistral ? Parce que c'était une revendication de la gauche américaine depuis des années. Et notamment de Bernie Sanders, ce candidat de gauche aux différentes élections présidentielles américaines, qui réclamait et qui était très véhément contre Amazon depuis des années en leur disant « Payez bien vos employés, donnez-leur $15 de l'heure ». Et bien, qu'est-ce que Jeff Bezos a fait ? Il a dit « Ok ». Et du jour au lendemain, on n'a plus entendu Bernie Sanders sur cette question. Donc l'entreprise, elle a une capacité à s'adapter à son environnement. Et c'est comme ça qu'elle parvient à continuer à gagner des parts de marché. Elle a effectivement une image qui est écornée, mais quand vous regardez la réalité des choses, elle a de plus en plus de clients et elle fait de plus en plus de chiffre d'affaires. Donc je ne suis pas inquiet pour l'avenir d'Amazon. Ils communiquent énormément sur le bien-être au travail, avec des plans d'action qui sont mis pour limiter ce dont on parlait tout à l'heure, les troubles musculo-squelettiques pour les salariés, ce genre de choses. Ils ont des actions environnementales où ils essayent d'électrifier leur flotte de véhicules de livraison. Donc Amazon, c'est une entreprise qui est colossale et qui donc a les capacités humaines et financières d'apporter des réponses aux critiques qu'on lui adresse.
Si on améliore les conditions de travail, ça veut dire, et donc qu'on essaye de tout faire pour éviter le mal de dos, par exemple, ça veut dire qu'il faudra passer par la robotisation et donc à terme, il y aura moins d'emplois, non ?
Alors ça, c'est assez compliqué. Alors effectivement, il y a un mouvement de robotisation des entrepôts d'Amazon. Plus les entrepôts sont neufs, plus ils sont robotisés. On peut se permettre de penser que l'objectif de l'entreprise est d'arriver à une robotisation quasi totale. Ça sera impossible d'ailleurs de supprimer complètement les êtres humains. Mais effectivement, il y aura sans doute de moins en moins d'emplois dans les entrepôts d'Amazon.
Merci beaucoup Adrien Pinon, réalisateur du documentaire Télé Le Monde selon Amazon avec Thomas Lafarge. Merci à vous Denis Penel. Vous publiez Le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur. C'est publié aux éditions du Panthéon. Merci à vous Penaï Traoré.
Merci Emmanuel.
D'être venu chez 7 milliards de voisins. Et demain 7 milliards, rediffusion de notre émission éducation. Comment le langage vient aux enfants ? On ne s'en rend pas compte, mais les bébés apprennent leur langue en un temps record comparé aux adultes lorsqu'ils intègrent une langue étrangère. Alors, par quel mécanisme du cerveau le langage vient aux enfants ? Quels sont les facteurs qui favorisent l'acquisition de la parole, qui permet de penser ? Quel rôle pour les parents ? C'est l'occasion d'entendre toutes vos questions à nos invités, neuroscientifiques et spécialistes de la petite enfance. À demain, les voisins et les voisines.
Milliards de voisins, c'est fini.
Tous les jours, Accent d'Europe.